Bonjour à tous, une fois de plus. C'est un honneur de vous présenter la parole de Dieu. Et je prie aujourd'hui, et j'ai prié beaucoup avant ça, pour que Dieu nous parle ce matin. Cela fait quelques mois que nous sommes dans l'épître aux Philippiens. Alors, pour récapituler, le dernier message a nous aidé à nous rappeler le contexte de cette épître. Je veux vous rappeler les thèmes principaux des deux dernières prédications. Dans les versets introductifs de la lettre de chapitre 1, Paul exprime sa gratitude et son amour pour l'église de Philippe, ses anciens et ses diacres, d'une manière qui est unique à cette épître particulière. Il est clair que Paul aime profondément cette église et qu'il est très heureux de leur obéissance à Christ et de leur soutien à son propre ministère. Nous avons appris que dès le début du travail de Paul et de l'implantation de l'église à Philippe, les chrétiens d'ici l'ont soutenu financièrement et spirituellement. Ils le soutiennent encore alors qu'il est emprisonné à Rome. Le thème dominant de ces versets, ces premiers versets, est le partenariat des Philippiens et leur obéissance active à Christ, plutôt que de simplement observer le travail des autres chrétiens. La deuxième partie, le deuxième message, les versets 12 à 18, se concentre sur les conséquences de l'emprisonnement de Paul. Certains avaient été galvanisés par les souffrances de Paul et s'était mis à prêcher l'évangile sans crainte, tandis que d'autres prêchaient tout en se moquant de Paul. La conclusion de Paul est que quoi qu'il en soit, le véritable évangile est diffusé et qu'il s'en réjouit. Aujourd'hui, nous allons donc commencer par Philippiens chapitre 1, verset 19 à verset 26. J'utilise aujourd'hui la colombe, notre traduction de la colombe. Philippiens 1, versets 19 à 26. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Selon mon ardent désir et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais maintenant, comme toujours, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. J'en suis persuadé. Je le sais. Je resterai et je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Prions encore une fois. Merci mon Dieu pour ta parole. Donne-nous les oreilles pour entendre ta parole, ta vérité. En dépit de ma faiblesse, parle à nous aujourd'hui. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta miséricorde et pour ta grâce envers nous. Merci pour ton Fils Jésus. Amen. Ce passage est peut-être très familier à beaucoup d'entre vous, mais comme toujours, il vaut la peine de considérer attentivement la parole de Dieu. Ce passage nous donne un aperçu fascinant du plus grand combat de l'apôtre Paul. Il se lit presque comme le journal personnel de l'apôtre ou comme une conversation avec lui-même. Et étonnamment, il parle comme s'il essayait de se convaincre de ne pas se laisser mourir. C'est un regard très intime sur ce personnage qui a vendu sa vie pour la cause de Christ, dont nous suivons les enseignements et dont nous imitons les actions. Mais comme d'habitude, l'apôtre Paul garde sa vision centrée sur Jésus. N'oubliez pas Non plus que toutes les paroles de la Bible sont en fait les paroles mêmes de Dieu, inspirées par le Saint-Esprit et écrites par des hommes qui ont été amenés à les écrire. Il ne s'agit donc pas seulement de l'expression des sentiments de Paul, mais de la vérité. Donc, si vous vous souvenez du dernier message, j'ai mentionné les trois étapes que nous devrions suivre en étudiant l'écriture. Ça, c'est le résumé, l'interprétation et aussi, Françoise, l'application. Ces étapes sont importantes parce que nous aurons du mal à savoir ce que signifie le texte si nous ne savons pas de quoi parle le passage. Et nous ne saurons pas comment l'appliquer et y obéir si nous ne savons même pas ce qu'il signifie. Réfléchissons donc ensemble à ce passage, étape par étape. Ok, que dit l'Écriture et que signifie-t-elle? Commençons par les versets 19 et 20. Souvenez-vous, Paul est en prison, menacé d'exécution pour avoir bouleversé l'ordre social et proclamé que Christ est le Seigneur au lieu de César. Il a également été abandonné par nombre de ses collègues. Des prédicateurs l'utilisent comme exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et l'Église de Philippe est la seule assemblée à être restée fidèle à son soutien. Malgré tout, après tout cela, il n'y a pas beaucoup de vague espoir et de souhait sans but dans ces versets. Paul n'est pas inquiet ou préoccupé par ce qui pourrait lui arriver ensuite. Au contraire, Paul est résolu à ce que Christ soit glorifié. Christ sera élevé, magnifié. Il dit avec pleine assurance. Il ne fait pas de doute que Christ sera honoré, que ce soit par la vie ou par la mort de Paul. Sa préoccupation essentielle, du moins d'après ces deux versets, semble être simplement que Christ soit exalté. Verset 21 encore. Car pour moi, il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Le verset 21 est l'un des versets les plus célèbres de toute la Bible, et pour une bonne raison. Il s'agit d'une déclaration puissante, c'est facilement compréhensible, et qui résume parfaitement ce qui devrait être notre façon normale de penser en tant que chrétien. En termes simples, Paul dit que sa vie entière est consacrée à Christ, au point que personne ne pourrait l'identifier à quelque chose d'autre. Personne n'a jamais écrit sur Paul en commençant par dire qu'il fabriquait des tentes pendant son temps libre. C'est une chose typiquement américaine de demander à quelqu'un quel est son travail immédiatement après l'avoir rencontré, car en vérité, cela en révèle généralement beaucoup sur la personne. On dit « Enchanté, que faites-vous pour travail? » Un ingénieur aura des compétences et des expériences bien différentes de celles d'un musicien ou d'un artiste. Et vous pourrez alors poursuivre la conversation sur un sujet qui l'intéresse plutôt que de parler maladroitement de la nourriture que vous êtes en train de manger, comme on fait en France, beaucoup de fois. J'ai rencontré très peu de personnes dans ma vie que je ne pourrais pas identifier à leur profession. Même des pasteurs. Chacun possède un ensemble très particulier de compétences et généralement une personnalité très particulière. Mais Paul était un homme de Dieu. Pas un faiseur de tentes, pas un évangéliste, pas un implanteur d'église, l'apôtre Paul était un homme dont la vie entière était dirigée et définie par Christ. Il dit, Christ est ma vie. Pas ma profession ou les églises sont ma vie, Christ est ma vie. Mais presque paradoxalement, dans le même souffle, il dit Christ est ma vie, mais la mort m'est un gain. Si la vie de Paul est si entièrement consacrée à la diffusion de l'évangile, c'est-à-dire l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle, que si un homme se détourne du péché et croit que Jésus est Dieu et Seigneur, il sera sauvé d'une éternité séparée de Dieu en enfer. Et si sa vie est si consacrée à démontrer la puissance de Dieu sur les forces démoniaques qui haïssent Dieu et nous haïssent, et à établir les églises comme des phares d'espoir au milieu de l'une des époques et des régions les plus méchantes et les plus dépravées qui aient jamais existé. Alors, comment la mort pourrait-elle être un gain? Logiquement, nous devons nous demander, que deviendra Paul après sa mort? Est-il en train de dire que la mort est préférable parce qu'elle le libère de toute la douleur et de la souffrance qu'il éprouve dans cette vie? Cela semble pas compatible avec le contexte des versets précédents où il semble si plein d'espoir et même assuré que sa situation actuelle s'arrangera pour le mieux. Toujours dans le contexte, jamais Paul ne s'est lamenté sur sa propre vie et n'a souhaité échapper aux épreuves. Il a simplement enduré. Au contraire, ce que nous savons de l'éternité après la mort, c'est que ceux qui aiment Dieu seront avec lui pour toujours. Jésus dit au voleur qui s'est repenti sur la croix qu'il sera avec lui dans le paradis après sa mort, en Luc 23. Pour Paul, la mort signifie donc la réalisation de ce qu'il a le plus désiré, être avec Christ. Ainsi, pendant qu'il est sur terre, il travaille pour Christ, mais dans la mort, il reçoit enfin la récompense. C'est l'espoir et la joie de tout chrétien. Un jour, quelles que soient les difficultés de notre vie sur terre, nous serons avec notre Seigneur Jésus. Et jusqu'à présent, Paul a exprimé sa foi dans le fait que Dieu le sauvera de sa situation actuelle en le libérant de prison, mort ou vif. Et il a exprimé sa certitude que Dieu sera loué pour ce qui se passera, soit sa mort ou soit sa vie. Vient ensuite un peu de réflexion. Versets 22 à 24. Lisons-les à nouveau. Mais est-ce utile pour mon œuvre que je vive dans la chair? Que dois-je préférer? Je ne sais. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Au cours de mon étude, et j'ai parlé avec Abel la semaine dernière, cette section a probablement été la plus difficile à traverser. Il m'a fallu plusieurs jours pour comprendre seulement verset 22. Et si vous vous souvenez, je pense que c'était la dernière fois que j'ai prêché, je vous ai dit que la dernière fois que l'un de mes professeurs de grec avait dit qu'il fallait être prudent de ne pas se vanter d'utiliser inutilement les langues bibliques originales. Mais c'est un cas où c'est justifié maintenant, je pense. Quand on traduit n'importe quelle langue, moderne ou ancienne, il faut comprendre le contexte pour bien saisir le sens. Par exemple, j'ai appris qu'il y a beaucoup d'expressions françaises qui sonnent négativement, mais qui ne sont pas forcément négatives, mais qui sonnent négativement. Pas mal étant l'expression préférée. Une fois, nous faisions des projets avec les Tavitiens. Et après avoir suggéré quelque chose à faire, l'une d'entre eux, je pense que c'était Gagné, a dit « Oh, c'est pas bête !» Et j'ai dit « Oui, j'étais un peu vexé parce que j'ai dit « Oui, c'est pas bête, je pensais que c'était une bonne idée. » Mais c'était juste une expression française. Donc, en traduisant littéralement, vous ne pourriez pas obtenir l'idée correcte sans comprendre le contexte, même dans les langues aussi semblables que le français et l'anglais. Dans l'original grec de cette lettre, verset 22, 22 est un peu différent des traductions françaises et anglaises. Ici, dans nos traductions, en français, toutes les traductions, Paul semble se demander si continuer à vivre sera bénéfique ou non. Il s'exprime avec incertitude. Pourtant, pendant les 20 ans où j'ai été chrétien avant de venir en France, je n'ai jamais remis en question ce que toutes les Bibles anglaises traduisent par ce verset. Elles disent toutes « Je sais que vivre signifie pour moi un travail fructueux. Mais en grec, il n'y a ni question ni affirmation. On lit simplement en grec, si je vis, travail fructueux ou travail utile. C'est tout. Ainsi, selon le contexte, qui est celui de Paul considérant son choix entre la vie et la mort? C'est à l'étudiant de la Bible, c'est-à-dire nous, de déterminer quelle est la conclusion la plus probable sur la base des éléments contextuels. Soit Paul se demande si le bon travail qu'il a accompli est réellement bon, ou soit il est certain que son bon travail se poursuivra s'il continue à vivre. Mais s'il vous plaît, ne vous me prenez pas, je ne mets pas en doute la fiabilité des traductions anglaises ou françaises. Et bien évidemment, le sens du texte n'est pas modifié, mais cela nous encourage à examiner la passage un peu plus en profondeur. Mais indépendamment du fait que la vie puisse donner un travail fructueux ou qu'elle le fasse certainement, en grec, en français, en anglais et dans toutes les autres langues, il est clair que Paul se trouve dans une position incroyablement difficile, mais qu'une option est définitivement la meilleure: être avec Christ. Et dans ce qui semble être un regard sur le monologue antérieur de l'apôtre, Paul conclut que même s'il serait infiniment mieux pour lui d'être enfin avec le Seigneur qu'il aime et sert, il est nécessaire qu'il continue à persévérer pour ce qui compte sur lui. Verset 24. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Et dans les deux derniers versets, 25 et 26, après avoir eu cette brève conversation avec lui-même, Paul est maintenant résolu. J'en suis persuadé, je le sais, je resterai, je séjournerai auprès de vous tous pour votre progrès et pour votre joie dans la foi. Mon retour auprès de vous vous donnera ainsi un nouveau et abondant sujet de vous glorifier à cause de moi en Christ Jésus. Convaincu du besoin des Philippiens, Paul décide de poursuivre le bon combat de la foi et de continuer à vivre pour eux. Il justifie sa décision par deux raisons bien précises. Un, il dit qu'il restera pour leur sanctification et pour leur joie dans la foi. Et deux, il dit qu'il restera parce qu'il sait que le fait d'être libéré de la prison et de retourner auprès des Philippiens les amènera à glorifier Dieu. Et si ces raisons sont évidentes à la simple lecture du passage, ce qui n'est pas, c'est ce que signifie exactement progresser dans la foi ou se glorifier en Christ Jésus. Le travail de Paul avec les églises établies au premier siècle n'était pas simplement de les démarrer, mais de les enseigner, de les guider et de les corriger lorsque c'était nécessaire. Toutes les églises mentionnées dans une épître du Nouveau Testament n'ont pas été fondées par Paul, mais en tant qu'apôtre, Paul avait pour mission de les guider et de les maintenir dans les limites de la bonne doctrine et de la pratique fidèle. Si vous observez les exigences et les attentes des anciens de l'Église que l'on trouve dans 1 et 2 Timothée et Tite, vous remarquerez que le rôle des bergers n'est pas simplement d'observer les chrétiens dont ils ont la charge, mais de les nourrir avec une bonne doctrine, de prendre soin d'eux quand ils sont souffrants et aussi de lutter pour eux quand les loups arrivent. Le rôle des apôtres était d'être les dispensateurs de la parole révélée de Dieu par Christ à un monde que la résurrection de Christ avait radicalement changé. Tout cela était nouveau, même pour les gens qui avaient suivi Dieu pendant des générations. Et ils avaient besoin d'être guidés par les apôtres de Christ et les anciens que ces apôtres établissaient dans les églises. D'une manière très concrète, il y avait un réel besoin pour Paul de rester et de continuer à guider et à enseigner. Nous savons d'après ses lettres à l'église de Corinthe et à la révélation de Jésus aux églises dans l'Apocalypse, qu'il n'a fallu que quelques années pour qu'elle s'égare complètement. Donc, Paul avait évidemment raison Il était nécessaire qu'il reste en vie pour que les églises continuent de progresser dans la sainteté et la sanctification. Mais deuxièmement, que signifie glorifier Dieu? Dieu n'est-il pas déjà glorieux? Il n'est pas entièrement autosuffisant et n'ayant besoin de rien. N'est-il pas la raison pour laquelle le soleil se lève et le créateur de tous et de tout? Pourquoi veut-il plus de gloire? Pour quelle raison Paul voudrait organiser sa vie autour de la question de savoir si ses actions glorifient Dieu? Ésaïe 42, verset 8, c'est Dieu qui parle ici. Je suis l'Éternel, c'est là mon âme, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur au statue. La nature même de Dieu est glorieuse. La gloire, la majesté, la magnificence et la splendeur sont des caractéristiques inséparables de Dieu. Et pourtant, Dieu ordonne à sa création de le glorifier. 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Apocalypse 14, 7. Un ange du Seigneur dit à la terre, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il est glorieux et il exige la gloire. La louange, la crainte et la révérence sont ce qui lui est dû en tant que notre Seigneur et Maître. Après ce qui semble être une incertitude et peut-être même un peu de tristesse à l'idée de devoir continuer à vivre et à souffrir, Paul arrive à la conclusion, comme il le dit au verset 18, avec l'assistance de l'Esprit de Christ, que son travail sur terre n'est pas encore terminé et que sa vie doit être consacrée à servir le Seigneur et à servir les autres. Si l'on pouvait douter que Paul se laissait décourager par les circonstances ou qu'il se laissait distraire de la mission de sa vie, il lève tout doute au verset 25 et 26. Aucune chaîne, aucune trahison, aucun désir personnel ne pourra dissuader Paul de rendre gloire au Seigneur Jésus. Ok. J'ai dit la dernière fois, et je pense la première fois aussi, j'ai quelquefois des moments américains, et voici un de ces moments, c'est l'application. Maintenant que nous comprenons ce que le passage dit et signifie, nous devons nous demander ce que nous sommes censés faire à ce sujet. Je voudrais commencer cette section en disant que l'application personnelle d'un texte biblique ne doit pas nous effrayer. Je suis pas en train de vous donner des ordres ou d'exiger quelque chose de vous. Je suis tout simplement l'exemple biblique de Christ et de la prédication des apôtres et des milliers d'années d'histoire chrétienne qui ont suivi. Une personne qui m'est très chère m'a dit que les adultes n'avaient pas besoin que la Bible et les prédications leur disent ce qu'ils doivent faire. Il suffisait de présenter les histoires bibliques et de laisser les gens tirer leurs propres conclusions. Aussi agréable et inoffensif que cela puisse être de lire des histoires et de laisser l'auditeur en faire ce qu'il veut, ce n'est pas ainsi qu'un chrétien devrait présenter les vérités de la Bible. Il y a une vérité et nous devons y croire et y obéir. L'un des passages les plus puissants de toute la Bible est le sermon de Pierre aux Juifs rassemblés à Jérusalem pour la Pentecôte dans Actes 2. Pierre prêche tout au long de la Bible, expliquant le plan de salut de Dieu et exposant ceux qui ont rejeté Christ et l'ont crucifié. Personne dans la foule n'est protégé de la condamnation et tous apprennent leur péché et leur rejet de Dieu. Il termine son message par un puissant, mais fort, reproche aux Juifs et par une confirmation de la divinité de Christ. Pierre aurait pu s'en tenir là et s'en aller en ayant dit beaucoup de choses très vraies et très utiles, mais le message ne s'arrête pas là. La foule rassemblée a alors posé la meilleure question. Frères, que ferons-nous? Ayant entendu la parole, ils ont voulu obéir à la parole. Faisons de même et appliquons la parole que nous étudions. Ok. Corrigez-moi si j'ai tort ici, mais aucun d'entre nous ne peut se comparer exactement à la situation difficile de Paul. Car aucun d'entre nous n'a été emprisonné pour sa foi. C'est vrai? Ok, good. Et si le Seigneur le veut, aucun d'entre nous ne le sera jamais. Aucun d'entre nous n'a été menacé d'exécution pour sa foi. C'est encore vrai? Ok. Nous sommes très bénis. La France est loin d'être un pays chrétien, mais notre christianisme y est au moins toléré. Mais qu'est-ce que la Bible dit que nous devons attendre de notre vie? Devons-nous nous attendre à des bénédictions ou même à la tolérance? Voici quelques versets qui disent non. Matthieu 16, verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Matthieu 24, 9. « Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Romains 5, 3. « Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. » 2 Corinthiens 6, 4. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses. 2 Timothée 1, 8. N'ayez donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, prisonnier pour lui. C'est Paul qui parle encore. Mais souffre avec moi pour l'évangile, par la puissance de Dieu. 1 Pierre 3, 14 à 17. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, heureux seriez-vous. Ne craignez pas ce que les hommes craignent et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte, en ayant une bonne conscience, afin que la même où l'on vous calomnie, ce qui est diffamant, votre bonne conduite en Christ soit confondue. Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Et quelques versets après notre passage aujourd'hui, Philippiens 1, verset 29. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. Ce sont les choses qui sont attendues et qui nous sont promises du simple fait d'être chrétiens. Mais maintenant, nous vivons une époque très favorable. Avec la grande liberté dont nous disposons aujourd'hui, sans aucune raison d'avoir peur ou honte de la vérité de l'Évangile, vivons-nous vraiment pour Dieu? Je ne suggère pas que nous soyons suicidaires, et que nous cherchions à mourir en martyr ou même à tenter des choses audacieuses pour Dieu. C'est beaucoup plus simple que cela. Vivons-nous dans la simple obéissance à sa parole? J'ai dû me poser cette question en préparant ce message. Quand je réfléchis à ma vie, est-ce que je crois que je vis uniquement pour rendre gloire à Dieu? Encore une fois, 1 Corinthiens 10, 31, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous bouviez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Bien sûr, je pourrais vous demander si vous prêchez dans les rues, comme les témoins de Jéhovah, ou si vous partez en mission dans un autre pays, mais il y a des moyens beaucoup plus simples de travailler pour le Seigneur. Priez-vous pour notre ville soit sauvée de la colère de Dieu et pour que nos voisins soient sauvés. Priez-vous pour que notre président et notre gouvernement prennent des décisions conformes à la loi de Dieu et bénéfiques pour les personnes qu'ils dirigent. Éduquez-vous vos enfants ou petits-enfants ou nièces ou neveux en leur apprenant à craindre, honorer et aimer notre Seigneur. Êtes-vous accueillante avec ceux qui vivent autour de vous, en incluant vos voisins dans votre vie afin de leur montrer l'amour de Dieu? Obéissez-vous au commandement de Christ de telle sorte que votre comportement être en conflit avec les normes de la société et amène les gens à se demander pourquoi vous vous comportez de la sorte? Rappelez-vous, s'il vous plaît encore, je ne vous donne pas des choses à faire. Je vous encourage de la parole de Dieu que nous avons tous besoin de nous examiner et de réfléchir à notre obéissance au commandement de Dieu. Cela dit, prenez courage, Dieu sera glorifié. Encore une fois, verset 20, Christ sera exalté dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Il ne dit pas cela parce qu'il est un super chrétien qui a fait des choses extraordinaires. C'est vrai, mais ce n'est pas la raison. Il le dit parce qu'il est simplement quelqu'un qui aime Christ. Une vie qui plaît à Dieu n'est pas nécessairement une vie remplie d'action. Quand Jésus lui-même a annoncé la bonne nouvelle, l'évangile, il a dit que nous ne devions faire que deux choses. Nous repentir, ça veut dire nous détourner de nos péchés, et croire qu'il est le Seigneur, en Marc 1, verset 15. Une vie qui glorifie Dieu est une vie remplie de repentance et de foi. Ainsi, une meilleure application de se demander si nous en faisons assez pour Jésus est peut-être de se demander si nous vivons une vie dans laquelle nous fuyons le péché et nous efforçons de suivre notre Seigneur. Confiez votre vie au Seigneur et il vous aidera à la traverser. Amen. Que Christ soit glorifié par notre vie et notre mort. Une dernière bénédiction. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Amen.